Bonjour à tous, nous sommes toujours en télé-enseignement. Vous trouverez pour ce dernier cours, et là c'est notre dernier cours de Christologie, vous trouverez plusieurs documents. D'abord le PowerPoint qui est en une pièce. Par contre, j'ai encore une fois mis l'enregistrement sonore que vous êtes en train d'écouter en deux morceaux. C'est plus facile à télécharger. Comme vous l'avez probablement constaté, et même peut-être pour vous, est-ce plus facile à suivre. Donc sur le PowerPoint, à chaque fois que vous entendrez ce signal, il convient de changer l'image. Vous voyez, c'est assez rustique, mais ça fonctionne bien. Donc sur la première image, vous avez le plan général, et vous voyez donc le chapitre 7, Notre Père. Nous allons en effet parler aujourd'hui, dans le cadre d'un cours de Christologie, nous allons parler du Notre Père. Il fallait bien faire un tour vers la prière de Jésus, peut-être même dire un mot sur la prière en général, vous verrez, ça apparaîtra ici ou là, mais surtout la prière que Jésus a enseignée, puisqu'il n'a pas laissé, il n'en a pas laissé 40 de prières, à la différence de 150 psaumes, nous n'avons qu'une parole qu'un enseignement clair de Jésus sur la prière, c'est donc ce que nous appelons, nous, le Notre Père. Je vous propose donc le plan suivant. En 7 points, vous voyez comme c'est merveilleux, hein, on finit en beauté. Cette partie, la 7e, étant une petite excursion, une petite énigme, à vrai dire, que je vous offrirai comme à guise de dessert, ou même de digestif, puisque ce sera le dernier propos que vous entendrez de ma part cette année. Ensuite, vous aurez un cours d'anthropologie qui introduira aux grandes questions de création, destinée, péché, grâce, image de l'homme, enfin toutes ces grandes questions. Première partie sur les sept, la prière de Jésus. On désigne ainsi le Notre Père, mais est-ce bien la prière de Jésus en deux sens, c'est-à-dire est-ce ainsi que lui-même priait, et est-ce bien ce texte qu'il a laissé, la prière dont il serait l'auteur. La façon dont Jésus lui-même a prié, nous n'en savons pas grand-chose, nous n'avons pas de description qu'aurait pu transcrire un observateur, mais nous n'en savons pas rien. Puisque les évangiles nous disent qu'il se retirait souvent pour prier seul. À nouveau, cette chose, vous voyez, vraiment merveilleux. Nous savons, premièrement, je vous donne la liste là, des sept points que nous allons voir de la pratique de Jésus. Donc, nous savons, premièrement, qu'il allait à la synagogue pour prier avec sa famille, puis avec ses apôtres, avant lui-même d'y enseigner. Certainement, il a fait partie de ces groupes de jeunes gens, de jeunes adolescents, qui débattaient avec ferveur des mitzvot et des tels ou tels points de textes prophétiques. Les juifs pieux adorent ça, c'est un exercice même des pharisiens, hein, de la disputatio. Donc il fréquentait la synagogue et vous savez probablement que les premiers disciples ont continué, après sa résurrection, à suivre pour un temps les rituels de la synagogue. Et ensuite, ils ont pris quelques distances, bien sûr, mais ils ont emprunté beaucoup d'aspects de la prière juive, notamment, bien entendu, l'utilisation des psaumes. Et chose fort importante pour toute prière, il y a, dans cette première façon de prier de Jésus, il y a l'agrégat communautaire. C'est quelque chose de fort important, il a certainement prié avec les autres. Et c'est, je le mets en numéro 1 parce que c'est certainement une des choses les plus importantes de la prière d'une manière générale, mais de la prière judéo-chrétienne et musulmane, que cet aspect communautaire. La prière a une espèce d'efficacité augmentée quand elle est communautaire. Ça, c'était le premier point. La seconde chose que le Christ a certainement pratiquée, C'est la méditation et la manducation, comme on dit, de la parole de Dieu, c'est-à-dire la répétition, le fait de mâchouiller la parole de Dieu. Les Juifs également adorent faire ça, les musulmans aussi. Il faudrait que les chrétiens n'oublient pas cette pratique, c'est-à-dire cette espèce de mémorisation par la phonation, par le fait de prononcer, de marmonner la parole de Dieu, aussi bien dans les psaumes d'ailleurs que dans tout ce que nous appelons l'Ancien Testament. Le Christ a pratiqué abondamment ces textes-là, bien sûr. Il connaissait ça par cœur et il n'était pas le seul, même s'il était probablement le seul à en comprendre l'accomplissement. L'accomplissement des Écritures, certainement, s'il est le Logos éternel, ce que nous croyons, alors en effet, lui, et peut-être lui seul, avait les clés de compréhension. En tout cas, cette forme de prière prendra dans la tradition chrétienne le nom de Lectio Divina. Et pour l'école au XIIe, XIIIe siècle à Paris, l'école de Saint-Victor, c'est même le premier sacrement. Et le fait de se nourrir de la parole de Dieu. C'est au cœur d'ailleurs de Notre Père, nous le verrons tout à l'heure. Et donc, la parole de Dieu est notre première nourriture. J'ai annoncé sept points. Nous allons voir, après ces deux premiers qui sont essentiels, deux autres qui sont liés. Le troisième aspect de la prière de Jésus, c'est évidemment, mais comme je pense tout le monde, c'est la contemplation, l'émerveillement, la simple prière devant la beauté des choses. Être, comment dire, soumis, être emporté par la beauté des choses, c'est déjà une forme de prière. C'est ce que nous connaissons sous la forme de captatio au Moyen Âge, c'est-à-dire le saisissement devant la beauté, la grandeur, des choses, ou des gens, ou des attitudes. C'est dire une sorte d'émerveillement. Et ça, Jésus l'a souvent fait auprès de ses disciples, puisque vous savez, il s'en sert même d'image dans ses enseignements, hein, où il dit à ses apôtres, regardez les lys des champs, ils croissent sans que personne ne s'en occupe, regardez les oiseaux, ils ont de quoi se nourrir, etc. Donc l'attention, l'émerveillement à la beauté de la création est évidemment quelque chose qui appartient au corps même de la prière. D'où un quatrième genre de prière pratiquée par Jésus, c'est la louange, l'action de grâce. C'est un peu différent hein, de ce que je viens de dire sur l'émerveillement, parce que là, c'est un mouvement maintenant de reconnaissance qui monte vers Dieu, vers le Créateur. Louange, tu es grand, tu es Dieu. Action de grâce, presque un remerciement pour tout simplement parce que les choses sont là, parce que la création est là. Donc voilà deux modes de prière qui sont liés. Il en reste trois, voyez, qui sont également reliés, vous allez comprendre. La cinquième façon de prier, c'est tout simplement la prière répétitive, qui est certainement une prière, là aussi, universelle. Jésus et les siens l'ont pratiquée. Elle consiste à répéter, soit constamment pendant un temps déterminé, 1 heure, 2 heures, ou bien le temps d'un déplacement, par exemple, soit de temps à autre, au cours de la journée, on se met à répéter une phrase toute simple, toujours la même formule, ou bien 2 ou 3 formules, mais assez proches. En fait, c'est une manière de laisser Dieu occuper la place. Alors, ça peut être un verset de psaume, bien sûr, ça c'est l'idéal. Une parole biblique, bien entendu, ça c'est un excellent exercice. Vous voyez, les moines et les frères convers ont beaucoup pratiqué cette façon de prier, où ils finissaient par mémoriser des versets entiers de la tradition poétique biblique. Et donc, c'est une très belle manière de prier. Ou bien encore, les prières répétitives plus populaires, hein, comme ce que je vous montre sur cette photo, où vous avez ces espèces de bracelets de prière dans l'Église orthodoxe, qu'on appelle des Schottky, qui ont donné, vous savez, l'origine des chapelets hein, par les musulmans interposés. C'est-à-dire l'Occident a connu, a inventé, si j'ose dire, enfin a découvert le chapelet en voyant les musulmans le pratiquer. Mais les musulmans eux-mêmes l'ont emprunté aux moines byzantins. Et les moines byzantins, ils avaient ces espèces de bracelets ou bien de cordes avec tout un tas de nœuds. et le doigt glissait d'un nœud à l'autre en répétant un des noms de Dieu, ou bien une brève formule de prière, comme la prière du cœur, bien connue dans l'Église byzantine. D'où un sixième type de pratique juive, celle-ci, ce sont toutes ces brèves prières d'usage, ce que j'appelle les prières d'usage, qui accompagnent tous les gestes de la quotidienneté. Par exemple, passer à table, débarrasser la table, mais aussi dès le réveil, hop, on prononce une sorte de prière. Quand on passe une porte de maison, comme vous le voyez sur cette image, ce qu'on appelle la mezouza, c'est une manière d'occuper les gestes de la quotidienneté par le souvenir de Dieu. C'est un souci très juif de rendre Dieu présent dans les moindres affaires. Alors évidemment, ça habite complètement les mitzvot, les commandements, mais disons, c'est le côté positif, vous voyez, des commandements qui finissent peut-être par devenir obsessionnels au bout d'un moment, avec une tentation de la pureté. Mais là, il s'agit tout simplement de laisser habiter la banalité, le moindre geste de l'existence peut être animé, habité par le souvenir de Dieu. Donc c'est une prière qui est tout à fait singulière, très juive, mais que Jésus a évidemment pratiquée, mais que nous pouvons également garder à titre d'héritage. Et alors, j'ai mis en dernier, septième, mais peut-être le meilleur, la prière de recueillement, d'intériorisation, si vous voulez, de ressaisissement, ce qu'on appelle la méditation. Tant à la mode aujourd'hui, hein, mais il y a une méditation chrétienne, il y a une méditation religieuse, il y a une méditation juive, et tout homme est invité, bien sûr, à ce recueillement. Ce n'est pas du tout un mot qui appartiendrait exclusivement au vocabulaire religieux. Mais là encore, il serait bien dommage que la religion chrétienne ne pratique pas abondamment et même excellemment cet art du recueillement, c'est-à-dire de ressaisir tout ce qui était dispersé. Ces moments, en quelque sorte, où il nous faut être seul, il nous faut nous retirer. Recueillir veut dire rassembler ce qui a été dispersé par les afferments de l'existence. Afferments parfaitement légitimes. Mais si on y prête, garde, ils finissent par vous mettre en miettes. Et donc il y a en effet un émiettement de la vie, et le recueillement consiste tout simplement à se restaurer, à se remettre debout, à se recomposer, à s'intérioriser. Jésus, sûrement, comme tout le monde, enfin comme tous les religieux en tout cas, avait recours à cette très saine pratique. On peut comprendre aussi, bien sûr, dans le recueillement en particulier, que sa prière était une quête du Père. Et là, on rentre évidemment dans le dur de la prière religieuse, juive, puis chrétienne. La prière, pour nous, c'est une quête de Dieu, c'est même une communion avec Dieu. Et Jésus, bien sûr, dans sa prière, était en communion avec le Père, c'est-à-dire, en particulier pour lui, d'une manière éminente pour lui, mais pour nous également, c'est-à-dire un don de soi-même, une sorte d'ouverture complète à la présence, en lui-même, de la plénitude de la divinité. Ce que nous-mêmes ne connaîtrons que de manière partielle, mais nous pouvons connaître quelque chose de ce genre. Et il faut s'ouvrir à la présence de celui qui est là. C'est bel et bien pour nous le but de la prière. C'est même, je crois, le but essentiel de la prière. Et donc, vivre quelque chose de la prière du Christ est probablement le cœur même de toute prière chrétienne. Mais comme vous voyez, j'en ai décliné sept modes, plus, comme vous l'avez compris, un huitième, qui est la raison des sept autres. La prière de Jésus elle-même rejoint l'universelle prière, pratique de la prière, même si elle la spécifie d'une manière très forte, très éminente, par son rapport au Père. La prière qu'il a enseignée, on peut dire, c'est la prière qu'il a pratiquée. Et la prière qu'il a pratiquée peut aussi être pour nous un enseignement. Et donc tous ces modes de prière que je viens de vous dire, que je viens de vous énoncer, et en carême, c'est très important de se faire mémoire de ça, sont des choses que nous pouvons tout à fait pratiquer, puisque le Christ l'a fait, et donc, s'il l'a fait, c'est un mode d'enseignement pour nous. Ceci dit, il nous a laissé un enseignement explicite à sa demande, à la demande de ses disciples. Et donc, nous allons maintenant nous y intéresser dans la deuxième question sur la prière de Jésus. Je viens de vous remettre le plan. Est-ce bien cela qu'il a enseigné? Autrement dit, quel est le statut du texte qui nous est parvenu? Avons-nous une idée de son authenticité? Est-ce bien celui-ci que Jésus a laissé? Comme vous le savez, c'est à la demande des disciples, « Maître, apprends-nous à prier » que Jésus donne ses paroles. C'est donc une prière pour nous, pour tous. Il dit « Quand vous priez, dites » et non pas, par exemple, « Quand je prie personnellement, voilà ce que je fais ». Et ce n'est pas un témoignage, c'est un enseignement, c'est presque une sorte d'héritage qu'il nous donne. Mais, d'une part, nous avons deux versions légèrement différentes, Luc et Matthieu. D'autre part, il y a dans ces paroles beaucoup qui sont déjà dans les prières juives connues des disciples. La nouveauté, c'est leur assemblage, si l'on peut dire. Et même, on peut préciser que la nouveauté, c'est la forme de l'assemblage. C'est ce que nous allons voir très vite. Et donc, en fait, il s'agit en effet d'un tissage. Jésus va chercher, ici et là, des paroles de prière dans les psaumes, dans l'écriture, dans la tradition. Il en ajoute et il compose. Jésus reprend les prières maintes fois formulées. Probablement a-t-il lui-même plusieurs fois parlé de la prière avec ses disciples. Comme voulez-vous qu'il ne l'ait pas fait ? En 3 ans, les disciples l'ont fréquenté, l'ont vu et certainement l'ont interrogé. Mais comment fais-tu ? Que fais-tu ? Est-ce que toi aussi tu utilises les paroles des psaumes ? Enfin, évidemment, ils en ont parlé. Et donc, les versions que nous avons sont un retricotage de Luc et de Matthieu, de ces enseignements multiples. Soit Jésus est lui-même l'auteur de ce tricotage, ce qui est probable, c'est-à-dire un beau jour, il a dit « Bon, écoutez, maintenant je vais vous faire une sorte de condensé. » Soit ce sont les évangélistes ou les premières communautés qui ont fait cette composition. Mais certainement l'ont-ils fait avec les enseignements authentiques du maître, ce qu'on appelle les fameuses ipsima verba, les paroles authentiques. Donc voilà ce qu'on peut dire sur l'authenticité de ce texte qui n'est pas douteuse. Je vous donne le texte du Notre Père, évidemment tout le monde le connaît, mais tout simplement pour vous montrer les petites nuances d'un texte à l'autre, à gauche Saint-Luc, à droite, saint Matthieu, je vous laisse le temps de regarder. On constate que Matthieu, la version que nous avons retenue dans la liturgie, augmente Luc. Impossible de dire, évidemment, s'il ajoute lui-même de son propre chef. Il est sûr qu'il n'invente pas. Mais peut-être trouve-t-il utile de développer, de compléter par telle phrase dite par Jésus. Peut-être trouve-t-il bienvenu également le nombre 7. Dont nous allons reparler. Parce que chez Matthieu, il y a 7 demandes. Chez Luc, il n'y en a que 8. Mais on voit bien, vous voyez, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, c'est très proche. Donc Matthieu n'a fait que, si j'ose dire, amplifier. À moins que ce soit Luc qui est réduit Matthieu. Enfin bon, ça, on peut encore en débattre. Mais le corps principal du Notre Père est bien le même. C'est donc ce que nous allons voir maintenant. Donc, deuxième partie de ce cours, le Notre Père est composé de 7 demandes. En voici sa structure, donc selon saint Matthieu, c'est la version que je vais suivre. Tout d'abord, notons que c'est une prière qui prend la forme de demande. Ah, déjà ça, c'est important. Pas celle, par exemple, du remerciement, ni de la louange, ni celle de l'offrande. D'autres prières le font. Tu es béni, Dieu de l'univers, nous te rendons grâce pour les merveilles que tu fis, etc. C'est une prière de demande et il y en a 7. 5 donc chez Luc, qui était moins inscrit dans la culture juive. Vous savez, Luc parle pour des païens, des gens qui ne sont pas pétris de culture juive. Peut-être est-ce là ce qui fait que Matthieu a tenu à cette structure à 7. Vous voyez que les 3 premières demandes concernent Dieu, le concernent lui, ce qu'il est. On pourrait presque résumer la première partie en disant « Dieu reste ou montre-toi comme Dieu ». Les 3 dernières concernent plutôt notre vie ici-bas, nos combats. Pardonne-nous, les offenses, les tentations. Entre les 2, de quoi mener ce combat? La nourriture. Nourrie de ce que Dieu est. L'ensemble, précédé par un appel, notre Père des cieux, notre Père qui est aux cieux. Nous allons voir ces 4 parties, donc l'appel, paragraphe 1, paragraphe 3 et ce qui est entre 2. Mais auparavant, un mot sur la prière de demande. D'abord, je vous présente 2 livres qui sont mes sources. Saint Augustin, maître de prière, c'est une thèse absolument remarquable de Monique Vincent, dont je me suis abreuvé pendant toute ma vie. C'est un commentaire des Enarrationes in Psalmo, c'est-à-dire des enseignements de Saint Augustin, qui s'étale sur 15 ans d'enseignement. Donc elle a fait une thèse remarquable sur la prière de telle que Augustin l'enseignait, et je pense en effet, comme elle, que Saint Augustin est le maître de la prière. Et puis, sur le Notre Père spécifiquement, la fameuse thèse de Carmignac, Recherche sur Notre Père, qui a aujourd'hui emporté enfin, si j'ose dire, la victoire avec la dernière traduction proposée pour notre liturgie. Donc voilà les livres que je propose, mais enfin je ne les propose pas, je m'en sers. Donc le premier point sur cette prière de demande, je voudrais dire que il faut que ce soit une juste prière de demande. Quand je dis juste, je veux dire correctement ajustée, car il y a en effet une prière de demande qui, sans être injuste, sans être mauvaise, disons, n'est pas juste. Vous voyez la nuance, hein ? C'est-à-dire, il y a des prières de demande qui ne sont pas ajustées. Saint Jacques est plus sévère que moi, il le dit au chapitre 4, verset 3 de sa lettre. Il dit ceci, « Vous n'obtenez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, mais vous ne recevez pas. Mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez en effet afin de satisfaire vos passions. » Voilà ce qu'il dit, autrement dit, hein, résumé, Dieu ne veut pas exaucer vos caprices. Et vous vous étonnez que Dieu n'obéisse pas à vos caprices. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette prière de demande? Et lui pousse assez loin en disant que ce type de prière risque fort d'être nocive pour nous. Nombre de nos prières sont en effet des demandes. C'est assez singulier, mais la plupart du temps, quand les gens prient, que ce soit des débutants ou d'une manière habituelle, ce sont des prières de demande. Si vous voulez, même, on peut dire que ce sont des réclamations, des demandes d'intervention, disons des protestations à peine poliment déguisées en demande. Qu'il me guérisse, que je réussisse, qu'il pleuve, qu'il ne pleuve pas. Alors le paysan et le touriste, vous savez, sont en rivalité, et donc c'est à celui qui va prier ou crier le plus fort. Enfin, vous voyez bien que ce sont là des prières de demande complètement invalides, si j'ose dire. En tout cas, pas ajustées. En ce sens, elles sont injustes. Vous voyez ce que je veux dire, hein, injustes. Voilà. Peut-être pourraient-elles être nocives. Parce que celui qui croit en un Dieu auprès duquel on vient récriminer, au bout d'un moment, il ne va plus prier. Donc, ça pose un vrai problème. En effet, Dieu n'exauce pas, ne répond pas, n'obéit pas à nos caprices. Par miracle, hein. Parfois, Dieu vient changer les choses. Mais quand il fait des miracles dans la Bible ou quand Jésus en fait dans le Nouveau Testament, c'est toujours pour enseigner. Si Dieu, ordinairement, semble ne pas vouloir changer les choses, il veut, par contre, changer les cœurs, orienter les volontés, animer les esprits, nourrir les intelligences et convertir les désirs. Ah, mais ça, nous, on veut pas. Voilà, on préfère qu'il change les choses, un petit miracle, quoi, du Harry Potterisme. On l'a vu dans les récits de la tentation, hein, c'est en effet une des tentations majeures de tous les religieux du monde. Pourtant, si la prière sert à quelque chose, c'est bien à ça. Changer les cœurs, orienter les volontés, animer les esprits, nourrir les intelligences, convertir les désirs. Donc oui, il faut prier, mais pour ça, pour obtenir ça. Si vous voulez prier, c'est faire place, et c'est faire place à Dieu. Voilà. Prière de demande donc. Mais alors, que demander? Puisqu'il y a des prières injustes, ou disons mal ajustées. Que demander? Ben, Augustin répond un mot. Que demander à Dieu? Dieu. Il faut demander Dieu à Dieu. Prier, c'est s'ouvrir à Dieu, c'est être présent à sa présence, c'est le laisser être là. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, voilà la prière. J'entrerai chez lui, voilà la prière. Et je dînerai avec lui et lui avec moi. Voilà la prière. Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Donc, demandez Dieu à Dieu. La seconde demande ajustée, la première c'est donc demander Dieu à Dieu, arrêtez de demander des choses, arrêtez de demander pour vos convoitises, arrêtez de récriminer, arrêtez de réclamer. La deuxième chose, la deuxième juste demande, ou la seconde demande ajustée, bien c'est celle de l'Esprit Saint. Saint Jacques, à nouveau, chapitre 1, verset 5. Si l'un de vous manque de sagesse, avec un grand S, la sagesse, Hagia Sophia, qu'il la demande à Dieu. De même, dans Luc, chapitre 11, verset 9, juste après avoir donné d'ailleurs le Notre Père, Jésus précise ce qu'est cette demande. Il dit, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Vous voyez, c'est les trois répétitions, les trois bilexiques, là, je ne sais pas comment dire, hein, très cadencés. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. C'est celle du centre qui donne la raison des deux autres. Cherchez. Et donc, la demande est une quête. C'est un désir profond. Voilà ce qu'est la prière. Et voilà ce qu'est la prière à l'Esprit Saint, parce que plus loin, nous trouvons au chapitre 11, toujours de Luc, mais trois versets plus loin, si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui l'en prient? Voilà ce que Dieu donne, ce qu'il veut donner, l'Esprit. D'ailleurs, nous en sommes capables. Nous en sommes doués. Saint Paul le répète, hein, l'Esprit parle à mon esprit. Romains chapitre 8, verset 16. Ou bien, trois versets plus haut, l'Esprit habite en vous. Et donc nous avons en nous le connecteur convenable pour nous greffer, si vous voulez, correspondre avec l'Esprit Saint. D'où, troisième type de demande ajustée, ben, les dons de l'Esprit Saint. Sagesse, conseil, intelligence, science, crainte de Dieu, piété, force. Ici, c'est la coupole de Venise, hein, de la Pentecôte que vous avez reconnue, puisque nous l'avons vue, hein, à titre d'iconologie. Et voici une autre image où vous avez les sept dons de l'Esprit. sous forme de sept colons. Vous voyez, c'est une iconographie assez rare. Et j'ai regroupé les sept dons selon leur proximité. Vous voyez. Conseil va avec sagesse, science va avec intelligence, crainte c'est craindre Dieu, c'est la fascination, si vous voulez, le wa. Crainte et piété, ça va ensemble. Et force qui vient lier les trois binômes. Voilà, donc, et ce n'est pas le succès à un examen qu'il faut le demander à la prière, ou un entretien, ou bien une réussite d'un appel d'offres. Mais, en effet, il faut demander le conseil, la force, la sagesse. Et si vous avez un échec, bah pareil, et, force, la force de vivre cette épreuve, sagesse pour en tirer profit, conseil pour savoir tendre l'oreille aux autres, au lieu de penser que Dieu ne vous a pas écouté. Voilà, c'est l'esprit, en effet, vient au secours de notre esprit hein, pour prier. Quand on est malade, par exemple, vous pouvez demander la guérison, c'est pas mauvais, mais il faut surtout demander la force de vivre cette épreuve, et la science et le conseil et la sagesse pour pouvoir ensuite réorganiser votre vie avec cette épreuve que vous subissez, etc. Autre précision de saint Augustin pour finir cette question de la prière de demande. Tout à l'heure, j'ai dit que si ce type de prière était mal ajustée, pour autant, elle n'est pas impie et elle n'est pas forcément nocive, pour deux raisons. Première raison, nos demandes, même maladroites, vont être épurées par la prière. Votre Père, dit Jésus, votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez, dit Jésus dans Matthieu 6, 32. Ah ben alors, à quoi ça sert de perdre son temps, demande-t-on à saint Augustin. Lui sait de quoi nous avons besoin, vous non, répond saint Augustin. Autrement dit, la prière purifie la prière. Et comme je le mets sur cette image gag, certains non-dits vont sans dire, mais ça vaut mieux en le disant. Et donc la prière, si vous voulez, ça sert tout simplement à nous rendre lucides sur ce qu'est notre vraie demande. Ça, saint Augustin, là-dessus, est très clair et très abondant, d'ailleurs. La seconde raison, toujours dans saint Augustin, pour laquelle nous pouvons quand même prononcer ces paroles mal ajustées, il n'y a pas de blasphème, il n'y a pas de problème, dites ce que vous voulez, eh bien, il y a une bonne raison, hein, c'est tout simplement la psychologie spirituelle de base. Nous avons besoin de déposer la charge, nous avons besoin de partager les soucis, de nous confier, de nous abandonner, si vous voulez. La prière, c'est alors une sorte de carafe à décanter. Et pourquoi pas ? Vous voyez, on dépose les choses, même les plus triviales, les plus banales, ou peut-être les plus graves, les plus douloureuses, et ça décante, ça s'apaise. Mais si ça s'apaise, après tout, dans ou sous le regard de Dieu, comme on dit si mal, si ça s'apaise dans l'Esprit Saint, eh ben, écoutez, tant mieux. Enfin, voilà, ça va se décanter. Les choses vont s'apaiser, et ce sera un fruit de l'esprit. L'esprit œuvre comme une oxydation, hein, si j'ose dire. Il donne de l'air. Avançons un peu, et nous allons maintenant voir notre appel, les toutes premières paroles, qui disent déjà trois choses. Hein. Père, Dieu comme Père, alors ça, je ne vais pas trop développer, on en a déjà parlé. Notre et des cieux. Donc, premier point, revenons un petit peu à cette méditation sur le mot Père. Avec cette iconographie à Moissac, vous avez à gauche, vous voyez, tout à fait à gauche, Abraham. Et on représente le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, c'est le ciel. Voilà, c'est le ciel des âmes. C'est là où vient. Où viennent reposer les êtres après la mort. Et à droite, vous avez le festin de l'homme riche. Aux portes de sa maison est couché le pauvre Lazare. Un jour, il meurt, et c'est la scène que vous voyez. On voit des chiens qui lèchent les plaies de Lazare, et un ange qui vient prendre l'âme de Lazare et la confier dans le sein d'Abraham. Donc voilà, le sein d'Abraham, si vous voulez, c'est le ciel éternel. Parce qu'Abraham est père d'une multitude, et se trouver dans le sein d'Abraham est une façon de parler du repos de l'être après la mort. Père, quand on dit notre père, père, ça veut dire patriarche, donc père d'une multitude. Ça veut dire patrie, ça veut dire chez nous. Et c'est la raison pour laquelle dans le sein d'Abraham, on repose. Mais cet aspect identitaire chez nous, clanique, ce lignage, est nuancé par un nouvel aspect plus affectif qui n'est pas tout à fait le lien que nous pouvons avoir avec notre patrie. Ajoutons que dans la culture juive, le père, c'est aussi le maître, c'est-à-dire celui qui enseigne, celui à qui on doit, celui qui conduit, celui qui a des disciples. Et donc là, il y a un petit côté affectif, vous voyez, qu'on s'attache volontiers. Je vous montre cette image d'une confrérie soufie, parce que ça marche exactement de la même manière. Quand il y a un maître soufi ou un maître spirituel, il faut qu'il y ait un petit peu d'affect. La grande difficulté de la part du maître, parce qu'il ne faut pas qu'il joue là-dessus. Et ce serait abusé. C'est un petit peu délicat, mais les grands maîtres le savent très bien faire ça. De plus, Abba, le mot qui est utilisé, Abba, pour dire père, d'où le mot abbé d'ailleurs, le mot Abba est dans l'épître aux Romains le fruit de l'Esprit-Saint. C'est l'Esprit-Saint qui nous fait dire Abba, c'est-à-dire père, et père comme je viens de le dire. C'est-à-dire, oui, quelque chose d'un peu affectif, mais quelque chose de l'ordre de l'attachement à un maître qui nous rapatrie, qui nous ramène, qui nous reconduit chez nous, ou en Dieu. Et donc, il s'agit d'un attachement affectif, en effet, mais d'abord profond, spirituel, et pas uniquement culturel, vous voyez, comme l'était un peu l'autre mot qui a la même racine, patrie. Donc, pas culturel, pas uniquement culturel, mais aussi, bien entendu, d'esprit, de cœur, d'intelligence. Toutefois, ce n'est pas, j'ai dit que c'était un peu affectif, mais ce n'est pas papounet. C'est pas trop bisounours ou infantilisant. Là, il y a deux écueils quand ils sont excessifs. Premier écueil, si vous voulez, ce serait le... je le dis de manière un peu exagérée, le vouvoiement, après tout pourquoi pas, la seigneurie, le patron de la fidélité, le big boss, Dieu tout-puissant, et premier écueil, il est tellement tout-puissant que, qu'est-ce que vous voulez, entre lui et nous, il n'y a aucun rapport, sinon celui de la crainte. Et le second écueil, c'est le papounet, vous voyez, c'est la calinothérapie, et là aussi pourquoi pas, après tout. Mais c'est quand même... quelque chose qui est de l'ordre du comportement régressif. Donc c'est la raison pour laquelle je dis que ce sont deux écueils, deux excès. Donc premier point, père. Second point, notre père. Notre père, notre, peut nous libérer de cette dernière dérive, des deux dérives que je viens d'évoquer. Nous disons bien notre père, et non pas papa ou mon père. Le collectif est déjà présent dans la figure d'Abraham, par laquelle j'ai commencé, est présent aussi dans le credo, avec la communion des saints. Et donc ça atteste d'une dimension fraternelle de l'être chrétien. J'en ai déjà parlé, mais rappelons-le, pas de chrétien sans frère. Il n'est pas vrai que la foi chrétienne, ce soit un seul à seul, un face à face avec Dieu. Ben non. C'est faire mentir le lien au père que de se passer des frères. Ce sont nos frères qui nous révèlent et nous conduisent au père. C'est le père qui nous fait frère. Bon, tout ça, nous avons déjà parlé. Troisième aspect, des cieux. Notre père qui est aux cieux. Où est-il ton Dieu? Nous demande-t-on dans le psaume 42. Réponse, il n'est nulle part. C'est-à-dire, il est partout, même dans le cœur de l'homme. Il est dans le cœur de l'homme comme un désir, comme un inassouvissement, le désir d'éternel, le désir d'absolu, que nous portons tous en nous, c'est là où est Dieu. Il fait signe par tout, c'est-à-dire par toutes les choses, par tous les événements. Il est partout insaisissable, comme l'air qu'on respire, et comme le ciel, sans quoi rien ne vit. Voilà où est Dieu, et c'est très difficile de répondre à cette question. Le ciel est une très bonne image parce que le ciel est partout, et pourtant, toujours inatteignable, surtout à l'époque de Jésus, hein, bien sûr. On n'a pas d'avion, pas de satellite, on n'a pas l'idée, on n'a pas la moindre idée de ce qu'est l'atmosphère et ses limites. Le ciel, c'est l'illimité. C'est l'illimité, mais on le respire. Il est plus intime à moi-même que moi-même. Et le pluriel, vous voyez, quand on dit notre Père qui est aux cieux, le pluriel augmente cet aspect incompréhensible, insaisissable, non localisable. Non seulement on ne le saisit pas, mais en plus ils sont infinis, ils sont nombreux, si j'ose dire. Alors je vous montre cette photo parce qu'on croyait, hein, jusqu'à la Renaissance, qu'il y avait plusieurs couches de ciel. On avait 9 ciels autour de les orbes célestes, comme on disait, hein, avec un ciel de feu, là où roulait le soleil, qui tournait autour de la Terre, bien sûr, comme chacun sait, à l'époque, comme chacun le savait à l'époque, un ciel éther, un ciel aqueux, etc. Bon. Continuons avec les 3 premières demandes. Et après cette quatrième partie, je ferai notre station, notre pause. Les 3 premières demandes reviennent à une seule. Que Dieu soit Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Revient au même. Redire 3 fois ce que Dieu est, ce que nous croyons de lui, ce à quoi nous voulons nous accorder, c'est le tout de la prière authentique. Que Dieu soit Dieu. Et donc, que ton nom soit sanctifié, ça veut dire que ta vérité, que la plénitude de ce que tu es soit connue, reconnue, confirmée, que ton nom soit sanctifié, que toute chose déploie, reflète la sainteté du seul saint. Il faut aussi demander à Dieu la grâce d'être purifié des idées que nous nous faisons de Dieu, de son règne, mauvaises idées ou de sa volonté, souvent idées déformées. Donc que Dieu soit Dieu. Le nom de Dieu, sa vérité, que ton nom soit sanctifié, son identité, ce n'est pas un concept, ce n'est pas une idée. Voilà, c'est sa vérité. Eh bien, prions Dieu que sa vérité ne soit pas pollué par nos idées, par des mauvaises expériences, ou je ne sais quoi. Le règne de Dieu n'a pas grand-chose à voir avec quelque théocratie que ce soit. Je suis passé à la deuxième demande, hein, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Aucun rapport avec la théocratie. Ça ne relève pas de la gouvernance, comme on dit. Même s'il faut que nous travaillions à féconder ce monde, et donc aussi à transformer sa gouvernance, en effet. Nous devons y travailler pour que les fruits de l'Esprit-Saint animent aussi tous ceux et tous ceux qui nous gouvernent. La volonté de Dieu ne relève pas non plus de la fatalité, vous savez, du fatum latin, hein, du destin, comme s'il savait tout, ou comme s'il avait sur nous tout écrit. Que ton règne vienne, que ta volonté, là je suis passé à la troisième expression, que ta volonté soit faite, bah, c'est du Inch'Allah, ça c'est pas chrétien. Vous voyez, non, Dieu n'a pas tout écrit par avance. Hein. Il n'a pas décidé lui-même qu'un jour je vais passer sous un bus, ou que je choperai le coronavirus à telle année, au mois de mars de l'an 2020. Vous voyez, tout ça n'a pas de sens, quoi. C'est pas la volonté de Dieu. Là c'est vraiment une tentation perverse que beaucoup ont traversé. Par contre, il devrait pouvoir, voilà, que ta volonté soit faite. Par contre, il devrait pouvoir tout animer en nous, tout à tirer de nous. Mais c'est nous qui ne voulons plus dans ce cas-là. Ah, nous voulons bien qu'il gouverne le monde, mais surtout pas qu'il nous anime, ou qu'il ait pouvoir, ou qu'il anime tout de nous. Ah ben ça, on ne le veut pas, bien sûr. Et pourtant, c'est la prière du Notre Père, que ta volonté soit faite. Voilà, et qu'elle soit faite ici, comme elle est faite en toi. C'est-à-dire, comme elle est faite au ciel, comme elle est faite en Trinité, comme elle est faite, vous voyez, dans la hiérarchie céleste. Et notre volonté doit s'accorder à la tienne, c'est-à-dire entrer dans ton projet de création. Donc voilà, j'ai passé en revue les trois mots. Je note encore, sur ces trois premières demandes, il y a quelque chose d'assez intéressant, et j'ai pas trouvé d'image, donc je vous l'ai traduit. Ici, vous avez cette espèce de rayonnement hein, de la volonté qui doit s'accorder à la nôtre, qui doit tout animer de nous, voilà, c'est l'image que j'ai trouvée. Par contre, sur les choses que je vais vous dire maintenant, j'ai pas trouvé d'image, donc j'ai fait des petits schémas. Je note que les trois premières demandes, donc, pour la première, elle va de nous à Dieu. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, ouais, c'est la louange, hein, que ton nom soit sanctifié par nous, par notre louange, par nos comportements même. Hein. Donc le cube, vous voyez, c'est l'humanité, et la sphère, c'est la divinité. La seconde, que ton règne vienne, irait de Dieu vers nous. Vous voyez, c'est que ton règne s'établisse en ce monde, s'établisse sur nous, par nous, en ce monde. Quant à la troisième, elle va de nous au monde. Et une fois que ce règne est établi, que nous nous sommes correctement réorientés vers Dieu par la louange, alors que ta volonté soit faite, qu'elle diffuse en quelque sorte par nous au profit du monde que tu veux. Donc voilà, c'est un petit essai d'interprétation et très schématique, hein, comme, comme les images le montrent. Je fais à présent une pause. À que ciao, à bientôt.